RTL.
Vos plus belles années.
Vos plus belles années. Patrick Sébastien.
Rémi Castillo.
Sur RTL.
Bonjour à tous, bonjour Patrick et bonjour notre invitée Evelyne Delia.
Evelyne
Delia.
Bonjour,
bonjour
Rémi.
Et comme on disait en te voyant arriver tout à l'heure, c'est...
Elle n'a pas changé.
Il y a des gens, gens à qui on dit vous ne changez pas, mais toi c'est impressionnant. C'est impressionnant. T'es sûr que c'est pas... Ils ne nous repassent pas tous les jours les météos d'il y a...
Ah, si on pouvait les enregistrer au moins, tu vois, on serait tranquille. Mais la météo, c'est de l'info, donc c'est toujours du live. Hein.
La femme la plus regardée de France, c'est
absolument,
vrai.
Absolument.
C'est vrai.
C'est vrai que c'est les bulletins météo sont les programmes les plus regardés.
Oui, c'est le programme le plus regardé. Entre 7 et 9 millions de téléspectateurs.
Wow.
On atteint des fois les 10. Quand on a des gros événements météo et dans les journaux, pareil. Hein.
Elle va nous expliquer tout ça. Mais avant, je voulais qu'on parle d'Evelyne, la petite Evelyne qui est née à Cologne. Tiens donc, je ne savais pas que tu étais née là-bas.
Ben, si je suis née là-bas.
C'est pour ça que tu sens bon.
Oh, jolie.
En fait, je suis d'origine bordelaise par mon père. J'ai vécu mes premiers mois à Bordeaux. Je ne connais même pas Cologne. Il faut quand même que j'y aille.
C'est un accident que tu sois née là-bas, alors.
Ma mère est d'origine allemande. Mon père est d'origine... enfin, est bordelais, mais un bordelais pure souche, puisque, bon, on monte à plusieurs générations bordelaises. Et puis, je suis montée avec mes parents quand j'étais toute petite, quelques mois, dans la capitale. Donc, je suis née après-guerre et je fais partie du baby-boom, comme on dit.
La petite Evelyne, elle était... Alors, est-ce que c'était un garçon manqué? Est-ce qu'elle avait des frères, des sœurs, déjà?
Je suis fille unique, mais en fait...
Gâtée, choyée,
effectivement.
Et élevée dans les valeurs, je suppose.
Tout à fait, élevée dans les valeurs. Et puis, tout de même, et ça, c'est drôle, parce que j'ai retrouvé des traces, j'ai retrouvé des copines, surtout du lycée, où j'étais aussi un peu garçon manqué. Chef de bande, voilà. Et puis, de temps en temps, c'était assez costaud, d'ailleurs. Et puis, voilà. Puis
dissipé?
Non, pas trop, mais on me disait, je faisais un peu le clown. C'est ça qui était étonnant. Parce
intéressé par les garçons à 14 ans ou beaucoup plus tard?
Oh, bah comme tout le monde, hein. À 14 ans, on est toujours, c'est toujours un petit peu le mystère, l'interrogation. Moi, j'étais quelqu'un de très timide.
Tu te rappelles de ton premier flirt?
Oui, je me rappelle de mon premier flirt. C'était pendant les vacances à Cannes. Mais en fait, j'étais quelqu'un de très timide, donc je ne faisais vraiment pas le premier pas. Hein.
Et oui, mais tu t'es retrouvée dans un métier où il faut quand même être un petit peu exhibitionniste, qu'on le veuille ou non, pour passer à la télévision.
Ouais.
Tu es quelqu'un de très timide qui se retrouve aujourd'hui être la personne
la plus regardée
de France. C'est paradoxal.
Mais j'ai toujours adoré le contact avec les gens.
C'est pas quelque chose de naturel quand même ce qu'on fait.
Non.
D'aller se poser devant cet écran et de savoir que après au bout d'un moment, je pense que toi tu dois le ressentir comme ça maintenant au bout de toutes ces années, on est plus conscient quand même qu'il y a 9 millions de l'autre côté. Heureusement qu'on n'y pense pas.
C'est ce que je disais, oui, heureusement qu'on n'y pense pas trop, mais souvent les gens me disent mais comment vous faites pour parler à une caméra quand ils viennent, quand ils visitent? Mais j'ai dit mais moi je ne vois même plus qu'il y a une caméra devant moi, on a le contact avec les téléspectateurs. Et je crois que c'est ce qui est très différent entre un métier de comédien et un métier de présentateur ou d'animateur. Parce que, et c'est vraiment pour ça qu'on fait un peu partie de la famille.
Et puis, il y a une chose, effectivement, qui nous échappe complètement à nous et dont on n'est pas maître du tout. Il y a quelque chose qui passe, que quelqu'un va dire exactement les mêmes mots, va se tenir pas, et ça passera pas, et là, ça passe.
Voilà. Mais je crois que l'important, c'est aussi d'être soi-même.
On est en 1971, et Pierre Sabag va te signer ton premier contrat de speaker. Comment on arrive à cette place de speakerine?
Alors, je crois que chacune a son histoire. La mienne, elle est très simple. C'est que j'étais en fac. Je préparais une licence d'anglais. J'étais à Sancier. Et pour me faire un peu d'argent de poche, j'avais fait un peu de mannequinat. Et puis, un jour, j'avais répondu à une annonce où, justement, le RTF cherchait quelqu'un pour présenter des programmes en français et en anglais, mais lors d'un congrès. Les télévisions européennes présentaient leurs programmes.
Privé,
un truc, oui, c'était l'ORTF, mais c'était des échanges de programmes entre différentes télévisions de différents pays. Et puis, j'avais été prise, et ça se passait à Paris. Ça avait duré, je crois, une dizaine de jours, et il y avait tout le temps des pannes. Donc, j'avais une cabine de speakerine, et je présentais les programmes en français et en anglais. Et puis, voilà, donc j'ai fait ça. Et puis, un jour, j'ai reçu un coup de fil en me disant, on a besoin de quelqu'un rapidement, on n'a pas le temps de faire de casting, Vous, ce que vous aviez fait, ça nous a intéressé. Est-ce que vous voudriez venir de temps en temps présenter les programmes ? Mais ce qui était génial à l'époque, c'est qu'on ne balançait pas à 20h30 comme ça. Tu apprenais le métier sur le tas.
Tu as démarré Speakerine, donc.
Donc, j'ai démarré Speakerine. J'ai continué à avoir... j'étais à la pige. Je continuais...
Qui y avait avec toi à l'époque ? Il y avait Evelyne.
Evelyne est arrivée un peu après. Il y avait déjà Denise. Alors, à l'époque, les chaînes étaient mélangées. Enfin, les chaînes, il n'y en avait pas des tonnes. Il y avait la 1, il y avait la 2, il y avait la 3. Ouais, et donc, on allait d'une à l'autre. Et puis en 71, il avait été décidé de séparer les chaînes. Et Pierre Sabag est devenu patron de la Une. Et là, il a dit, bon, ben, moi, je choisis mes présentatrices et il m'a embarqué avec lui. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier contrat.
On va l'écouter.
Absolument.
Pour faire plaisir. Ça fait drôle de retrouver cette voix-là.
Pour faire plaisir à Evelyne, on va écouter. Donc, celui qui était parallèlement le premier présentateur du journal télévisé, hein, c'était donc 1949. Et en 1971, donc la première année, il était sur RTL. Et dans le document qui va suivre, il va lui aussi nous parler de ses débuts. Parce qu'avant de faire de la télévision, il avait exercé beaucoup de petits boulots, il va vous les détailler et il va même vous dire qu'il aurait pu exercer ses talents non pas sur le petit mais sur le grand écran. Pierre Sabag, dans vos plus belles années sur RTL.
Avant de faire de la télévision et d'attraper cette grave maladie qu'on appelle la télévision, j'ai fait 32 professions ou emplois et dans tous azimuts. Et je me suis aperçu très longtemps après que sans le faire exprès, mais vraiment, alors j'ai toujours travaillé pour la foule car j'ai été comédien. Mais très mauvais. J'étais chez Dulin. Et Dulin m'a convaincu de passer derrière les caméras. C'est étonnant qu'il ait pressenti ça. Je pense que j'ai pas fait. J'ai vendu sur les marchés. J'étais camelot. Enfin, tout. J'ai tout fait. J'ai fait du cirque. J'étais à Medrano. Vraiment tout.
Des hommes rares, ça.
Ouais, mais et ça, c'est intéressant parce qu'on ignore tout. De Pierre Sabag. Moi, la première fois que je l'ai rencontré, on parle de la timidité, mais j'étais très impressionnée. Parce que moi, Pierre Sabag, c'était quand j'étais toute petite. Bien ils n'étaient pas très nombreux. Hein. Il y avait Dumayet, il y avait Sabag, il y avait Claude Darget. C'était les pionniers de la télévision. Mais quel talent.
Je crois qu'on va retrouver peut-être d'autres pionniers.
Vas-y, oui, avec d'abord un générique d'une émission qu'appréciait, je crois, énormément Evelyne à l'époque.
Tu vas trouver tout de suite.
Ah oui, Discorama.
Discorama.
Sûr, ouais, pendant
parce qu'il y avait une femme. Un peu avec cette élégance que tu as, toi, cette classe, on va dire le mot.
Bien sûr.
Denise Glaser, c'était quoi pour toi, Denise ?
C'est pareil, c'est mon enfance. Alors, Discorama, je m'en souviens
parfaitement.
C'était
le dimanche à midi et demi.
Ça passait le dimanche à midi et demi. Et c'est vrai que c'était un personnage, Denise Glaser. Et sa façon. Et en plus, finalement, quand on revoit actuellement, on revoit de temps en temps des séquences. J'en ai revu encore la semaine dernière de Denise Glaser dans des émissions. Et finalement, moi, je trouve qu'elle avait un certain modernisme par rapport à ce côté atypique. Parce qu'on a en souvenir peut-être les premières interviews qui étaient très après-guerre, où il y avait une espèce de ton vieillot. Et puis tout à coup, moi je trouve que ce sont quelques-uns des pionniers de la télévision qui ont beaucoup fait pour justement passer à autre chose.
Et d'ailleurs, dans l'émission...
Écoutez, Denise.
Denise Glaser, oui, mais avant cela, il y avait une particularité aussi dans l'émission. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Patrick, c'est que lorsqu'il filmait, il filmait aussi les réactions, pour voir les réactions. C'est-à-dire que voilà, il ne restait pas forcément sur la personne qui parlait.
Absolument, il y avait les silences, il y avait les gros plans, les très gros
les
plans.
Silences énormes.
Et c'est là où il y avait de l'émotion qui transparaît. Essaie justement l'écran. Alors, je vous propose de l'écouter, Denise Glaser, donc, pour faire plaisir à notre invitée Evelyne Delia. Alors, on va la retrouver dans le cadre d'une émission que présentait Philippe Bouvard en 1971 sur RTL, c'était RTL Non-Stop. Et elle va nous dire qu'entre les hommes et les femmes, il était plus difficile pour elle d'interviewer les femmes. Et tendez bien l'oreille, car dans cet extrait, vous pourrez aussi entendre une remarque de Charles Aznavour. Vous êtes dans vos plus belles années sur RTL.
Plaisir. Interviewer un homme, c'est... disons normal. Mais quand une femme interviewe une femme, c'est d'une certaine manière plus difficile. Quelquefois, on a envie, par exemple, de dire à une femme qu'elle est belle. Parce que c'est une chose évidente et que c'est très agréable à regarder. Et
oui,
que c'est agréable.
C'est évident, il n'y a pas besoin de le dire, c'est aux autres qu'il faut le raconter.
C'est pas plus mal de dire regardez comme cette personne est jolie.
Et là, vous n'osez pas.
Je le fais, mais il y faut une certaine manière, je ne sais pas comment, un certain ton pour que ça ne paraisse pas équivoque.
Mais quant à moi, si elle me dit que je suis beau...
si elle dit que vous êtes belle, c'est encore plus extraordinaire, non ?
C'est vrai qu'il y avait une élégance. C'était, moi, il me faisait toujours penser à Barbara.
Exactement.
Et on a même,
c'est l'émission dans laquelle on a découvert Barbara,
oui,
d'ailleurs.
Hein. Ouais,
mais il y a une similitude
physiquement et la façon sur l'intonation et tout, absolument. Oui. Les deux personnages.
Alors, dans notre émission, on joue aussi à reconnaître des extraits de films. Je ne sais pas la réponse. Je vais jouer avec toi. Allons-y.
En l'occurrence, c'est un réalisateur qui a aussi été un...
De 71.
Oui, de 71, qui a été un grand présentateur télé. Alors, dans la séquence qu'on va écouter, quelqu'un va chercher à savoir comment va un docteur.
Alors, docteur, vous êtes content? Vous êtes content, il est acquitté? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette?
Ça, c'est Serrault.
Oui, Michel Serrault.
Ah, c'est Serrault.
Vous avez besoin de repos.
Je vais très bien.
Mais Galabru, il y a un autre Michel, voilà, Galabru.
Vous devriez voir un médecin.
Foutez-moi la paix, Martinet!
Ah oui, là c'est Galabru, absolument. Ouais.
Allons!
Michel Serrault, Michel Galabru.
Réalisé par
Pierre Tchernia.
Le Viager.
Exactement,
oui. Ah, le
c'était
Viager.
Le Viager.
1971.
Le Viager.
Tourné en 71,
ça fait 30 ans.
Et sorti de février 72.
71, ça fait 30 ans.
D'ailleurs, on l'avait choisi parce que Pierre Tchernia avait été aussi speaker télé dans La Belle Américaine de Robert Derry. C'était son premier rôle au cinéma en 1971.
Avec De Funès et La Troupe des Banquiers.
Exactement.
Bon, on revient tout de suite pour parler de cette fameuse maison de TF1 que je suis allé faire. Et je me souviens d'être allé dans un pavillon à côté de Gentilly avec Bernard Gollet.
Ouais,
il y a 25 ans de ça.
Et tu avais un pantalon rouge. Je m'en souviens très bien.
Quelle mémoire.
Mais ça m'a marqué cette émission.
Bah, bravo. On sera en 1985.
RTL. Vos plus belles années. Avec Evelyne Delia. 11h30, 12h30.
Vos plus belles années.
Patrick Sébastien.
Rémi Castillo.
Sur RTL.
Et là, je viens de prendre un coup de massue de la part de Evelyne. Pendant la pub, on a réfléchi que 70, ça faisait pas 30, ça faisait 40.
Déjà.
Et, 80, et 85.
Coup, je me disais bon.
Et 85, ça fait
25.
Ben
oui.
Oh là là.
Déjà.
85, ça s'appelait la maison de TF1.
Oui, tout à fait.
Et tu avais eu. C'est pas à cette occasion, mais tu avais eu le 7 d'or de la meilleure speakerine. Je me rappelle où c'était. C'était au Lido.
Absolument. Et c'était, je crois, la première.
J'étais en très
année.
Bonne compagnie. Je m'en souviens très bien. Je m'en souviens
des détails.
Parce que les nuls, je sais plus qui c'est qu'il y avait. Oh si, je me souviens très bien de cette remise des 7 d'or.
Des 7 d'or. Ouais. Je crois que c'était la première année d'ailleurs, on remettait les 7 d'or.
Possible.
Hein, et moi, je me souviens très bien aussi parce qu'on était à des tables et moi j'étais à la table de Daniel Bilalian. Je m'en souviens très bien.
C'est
de
pas
ça
loin
aussi.
De toi, je me souviens très bien. Moi, ils m'ont rien donné, alors c'est Carnaval qui marchait bien. Mais c'était hard, il y avait de la concurrence. Je pense que c'était les nuls qu'il avait eu à l'époque. Enfin, c'était une belle fête.
Ah, c'est ce que j'allais dire. Tu m'as ôté les mots de
magnifique.
La bouche parce que c'était une super belle fête. C'était la première en plus.
Ouais.
Et il y avait vraiment le côté famille de la télévision.
Il n'y avait pas la bagarre comme...
Non.
Il y avait moins d'argent aussi.
Oui aussi, c'était d'autres temps.
C'est d'autres temps, d'autres mœurs. Alors, la maison de TF1, oui.
Ah, ça, c'était
ça
génial.
Ça se tournait dans un...
Dans un pavillon.
Pavillon à Gentilly.
À Gentilly. Mais moi, je dis souvent...
C'était quel jour?
Alors,
cette
émission a beaucoup vadrouillé dans la grille. On a commencé à la faire le samedi matin et on la faisait en direct de 11h30 à 13h.
Je ne pense pas que ce soit là que je suis venue. Hein.
Non. Et alors, donc là, c'était vraiment de l'info. C'était trop
tôt.
C'était
vraiment le matin, sauf
non,
sur RTL.
Là, c'était de l'info pratique qu'on faisait. Et moi, je dis souvent que cette émission, c'était un petit peu de la télé-réalité avant l'heure. Pas forcément écolo, mais pratique, info pratique. C'est-à-dire que pour la première fois, c'était Christian Bernadat, qui était aussi un grand journaliste à l'époque, et qui avait eu cette idée géniale de dire, plutôt que de faire du bricolage maintenant dans un studio avec juste une planche, etc., on va être dans une vraie maison, avec une vraie famille. Et les caméras, on les ignorait. C'est comme dans un loft ou comme ça, où on vous filme sans regarder les caméras. Et on avait le copain jardinier, il y avait Nicolas le jardinier, il y avait le bricolage, et c'était comme ça.
Nicolas le jardinier, oui, ça vous parle, ça.
Exactement.
Et puis celui dont on va vous parler maintenant... Il va réveiller des souvenirs aussi.
Ben oui, parce que juste après, à 13h, il y avait évidemment Yves Mourouzi qui a présenté pendant 13 ans, de 75 à 88, le 13h sur TF1.
Bonjour, regardez la météo et Gabine.
Lui aussi avait révolutionné, Patrick, la présentation du journal. Hein, il l'avait présenté dans des endroits insolites.
Elle a raison, Evelyne, quand elle disait tout à l'heure c'était une famille. Il y avait une famille là.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai. On était... Et pour revenir à la maison de TF1, Patrick était venu les après-midi parce qu'après, ça marchait tellement bien que pendant les vacances, on nous avait demandé de faire toute la journée du samedi. Le matin, on faisait l'émission pratique. Ouais. Et le samedi après-midi, on faisait les variétés. Et c'était génial parce qu'on a vu
défiler dans le jardin.
Dans le jardin, dans cette émission.
C'est drôle.
On a vu défiler, tout le monde. Et souvent, on nous disait, oh, un tel, tu vas avoir du mal parce qu'il est un petit peu emmerdant, il va tout de suite vouloir partir et tout. Et après l'émission, les gens restaient. On a fait même des bœufs extraordinaires avec les casseroles de la cuisine et tout. On a des souvenirs.
Mais
c'est génial.
Faudrait la recréer.
Je crois même qu'il y a une émission avec Lama qui est très chaude, non? Je me demande s'il n'y a pas une émission avec Lama.
Chaude
ou...
dans quel sens?
C'est-à-dire qu'il était, il était un peu parti, il était un peu, ils avaient un peu bu les mecs.
Ah bon
bah, c'est-à-dire, il y avait la cuisine.
Il y avait la cuisine à côté.
On va écouter Yves. L'écouter Yves Mourouzi lorsqu'il était sur RTL en 1985. Alors l'invité de Max Meynier qui lui avait posé une question, à savoir si c'était à refaire, s'il choisirait toujours le même métier. La réponse d'Yves Mourouzi. Est-ce que vous avez une petite idée sur ce qu'il pourrait répondre d'après toi?
Bon, ça dépend à quelle heure de la journée on lui a posé la question.
C'était sur RTL en 1985.
Et si vous n'aviez pas été journaliste, bon, vous auriez pu être, je sais pas, moi, homme politique, avocat, homme de spectacle.
J'en sais rien.
Ça serait à refaire. Vous choisiriez cette profession?
Elle me passionne. Je l'adore. Le jour où je ne l'aimerai plus, je ferai autre chose. Pour l'instant, je n'en sais rien. Vous savez, je n'ai jamais de projet à long terme. Je sais ce que j'ai envie de faire dans la vie, c'est d'avant tout de vivre. Alors voilà, vivons avec ce qui vous plaît et dans la mesure où vous pouvez le faire. Faites-le, ça a toujours été mon principe, agir.
Moi, c'est, vous le savez, hein,
c'est
celui que je place au-dessus de tout le monde.
Ah
ouais, dans ce
il était extraordinaire. On l'a vu tenir l'antenne lorsqu'il y avait des cérémonies officielles et qu'il ne se passait rien. Parce que des fois, on attend le protocole. Moi, j'ai des souvenirs de cérémonies officielles en Angleterre où ils attendaient la reine, le carrosse de la reine, etc. Et il tenait l'antenne, mais il était extraordinaire pour ça.
Yves, allez, un petit générique TV de 1985.
Oui, une émission qui s'adressait plus particulièrement aux jeunes, et je crois que c'est l'heure.
Et c'est l'heure de mon émission préférée, je vais regarder tout.
C'était le samedi.
Pour toi, ça.
C'était le samedi, c'était sur FR3 à l'époque.
Je sais pas du tout.
Écoute la musique, ça va te parler.
C'est la musique de Chiffre d'Elle, ça?
Non.
Sur France 3?
Oui, sur ouais, FR3, en l'occurrence, et c'était FR3. Donald Duck. Qui était doublé par
ça.
Guy Montagnier. Et il y avait également Jean Rochefort, on l'avait choisi pour ça, oui, qui présentait les aventures de Winnie l'ourson. C'était dans le cadre du Disney Channel.
Parce que c'était la grande époque de Dorothée, hein,
aussi.
Sur TF1.
C'était sur TF1.
Là, sur TF1, à l'époque, la famille, c'était Dorothée, c'était Yves, c'était. Qui c'était le soir?
Le soir, c'est-à-dire.
Aux infos. C'était Bourré, non?
Il y a eu Jean-Claude.
Jiquel. Ouais.
C'était Jiquel.
C'était Jiquel.
Quand un avion s'écrase, c'est sur les pompes à Jiquel.
Exactement.
On va écouter Rochefort.
Oui, on va écouter Jean Rochefort parce que je crois que c'est un comédien qu'apprécie Evelyne.
J'aime beaucoup Jean Rochefort. Je trouve qu'il a beaucoup de talent, de décontraction, de personnalité.
Encore une fois, d'élégance.
Et d'élégance, absolument.
D'ailleurs, il a obtenu 3 Césars. Est-ce que tu sais pour quel film, Patrick?
Alors, Que la fête commence, peut-être.
Alors, Que la fête commence, effectivement, en 76.
Peut-être Tandem.
Meilleur second rôle, ça, c'est des deux Bertrand Tavernier. Tandem, il avait été nommé, mais pas, il n'avait pas eu César en 91. Il y avait eu en 78 Le crabe tambour de Pierre Schoendoerffer et 99 César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Alors, je vous propose de l'écouter. Il va justement nous parler de ses films préférés. Et puis, par la suite, il va revenir sur ses débuts au conservatoire dans une promotion assez exceptionnelle. Jean Rochefort, sur RTL.
Je dis Le crabe tambour, je dis Un étrange voyage, les comédies d'Yves Robert. Il y a ce vieux Farfadette de Broca pour lequel j'ai une grande tendresse et avec lequel j'ai fait en tout cas 2 films que j'aime beaucoup, à savoir Cartouche, qui est un très vieux film, et Le cavaleur. J'étais au conservatoire avec une promotion très ennuyeuse. Mais je suis parti à l'armée. Je reviens 2 ans après. Qui je trouve? Avec la nouvelle promotion, Marielle, Crémer, Belmondo, Michel Beaune et Pierre Vernier. Et là a débuté une phénoménale partie de rigolade qui dure encore. C'est la chance, ça.
Ce qui est formidable, c'est qu'il dure encore.
Jean-Pierre Marielle, c'était extraordinaire. Philippe Noiret aussi. Ils sont souvent associés. Et quelle personnalité ils ont, chacun.
Une génération de comédiens.
Comment tu luttes contre le ronron, en fait? Parce que ça fait... Alors, ça fait combien de temps que tu présentes la météo?
La météo depuis 92.
92, ça fait donc pratiquement 20 ans.
Oh ouais, c'est dingue. Moi, j'ai l'impression que c'était
hier.
C'est tous les jours. Enfin, moi, je suis à l'antenne du lundi au jeudi.
Bon, plus LCI.
Plus LCI, voilà, absolument. Et puis, puis j'ai la responsabilité du service météo.
En fait, tu es chef du service météo.
Voilà, TF1,
LCI. Et les
LCI.
Gens ne se rendent pas compte à quel point c'est un boulot, parce qu'il faut aller pêcher les infos, il faut les vérifier.
Exactement, mais c'est un travail. C'est pour ça qu'il n'y a pas de ronron. C'est quelque chose qui n'existe pas dans le métier. Moi, je dis souvent, je suis tombée dans la marmite et c'est passionnant.
Parce que l'antenne, c'est très peu de temps par rapport au travail.
Bah, l'antenne, c'est entre 1 minute 50, générique compris, comme on dit, et 3 minutes maximum de bulletin météo. Et c'est, je ne veux pas dire 12 heures de travail, mais presque tous les jours. On ne se rend pas compte. Et souvent, les gens, quand je leur explique, ou même des journalistes, ce que c'est que le travail de préparation d'un bulletin, ils sont très étonnés. Parce que je suis responsable du bulletin de A à Z. Mais c'est passionnant. Et puis, il y a tout ce qui gravite tout autour, c'est-à-dire aussi les rencontres avec les scientifiques, les problèmes de réchauffement climatique.
Ça, on va en parler parce que ouais. Tu t'es beaucoup investi. Mmh.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, on peut rappeler que Louis Baudin, que nos auditeurs connaissent bien sur RTL, ouais. A rejoint l'équipe
Absolument.
De TF1, l'équipe d'Evelyne Delia.
Tout en restant à RTL.
Et
mais
on retrouve le week-end, justement.
Voilà, moi, je lui dis, t'as beaucoup de chance. Louis, t'es sur la meilleure radio, la meilleure télé.
Voilà, de faire admirer sa magnifique chevelure sur TF1.
Exactement. Moi, j'attends surtout cet été. Quand il sera sur le plateau avec Harry Roselmack.
Ah oui,
ça sera pas mal, les deux chauves.
C'est la pub déjà ?
Alors, c'est la pub juste après un extrait de film, un homme qui va nous parler de l'état amoureux. Essaye de le deviner, Patrick. 85.
Amoureux, c'est passager. On est amoureux et on passe au suivant. Tout le monde tombe amoureux.
Des nerfs, non ?
Donc là, ça va, non. Ça vient.
Ah, c'est vrai que c'est un film de Jack Houston, en l'occurrence. C'est Jack Nicholson. Donc là,
c'est une doublure, d'accord. Oui, alors, c'est difficile.
Jack Nicholson, Kathleen Turner, c'était un film de John Huston, L'honneur des.
Pritzi, voilà. Un petit peu de pub et puis on va aller faire un tour dans la boîte de jazz, tiens donc.
Avec Michel Jonas.
Avec Michel Jonas.
Ah. RTL. Vos plus belles années. Avec Evelyne Delia. RTL. Vos plus belles années. Avec Evelyne Delia.
Un peu parti, un peu nage, je descends dans la boîte de jazz. Histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Les gamins regardent énervés.
C'est pas un habitué, sûrement pas un amoureux de Dizzy.
L'orchestre s'installe des professionnels.
Come on, boy,
c'est moi qui s'interpelle.
Hey, Gus, tu connais Charlie Mingus?
Oh, par cœur, je connais par cœur.
Hey, fils, le nom est Davis.
Aussi, le gamin aussi, j'aime tous les succès de Duke Ellington. J'avance doucement et je rase les murs de la boîte de jazz pour arriver pétrifié jusqu'à la scène. Dans un coin, un orgue m'attire. Ça y est, je transpire. Timidité surhumaine. Et si c'était la chance de ma vie, je me lance à les tant pis. Un peu parti, un peu naze, je sors de la boîte de jazz, histoire de reprendre un peu le cours de ma vie.
Michel Jonas sur RTL, c'était la boîte de jazz, succès de l'année 1985.
Et maintenant, la petite question quiz, juste avant les infos, alors on prend ta place, parce que d'habitude, juste avant les infos, c'est la météo, là, ça ne sera pas la météo. ça va être une petite question, il faut essayer de retrouver un événement à partir d'un document sonore. Mm. Tu ne dis rien si tu as trouvé, on donnera la réponse après les infos.
Je pense que vous allez tous les deux reconnaître la personnalité du petit écran qui va s'exprimer, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir de qui elle nous parlait. On l'écoute, je vous donne un indice, on est en 1998.
J'étais moi-même toute jeune speakerine à Télé Monte Carlo et je la voyais, je la regardais, on me disait toujours « Ma petite, quand vous saurez faire une annonce, vous pourrez dire ce jour-là que vous êtes une speakerine. »
On a reconnu, évidemment.
Vous avez reconnu.
Bien sûr.
On écoute les infos. Mais de qui nous parlait-elle ?
On va voir.
Ça, c'est plus dur. Les infos sur RTL, il est midi.
11h30, 12h30.
Vos plus belles années.
Patrick Sébastien.
Rémi Castillo.
Sur RTL.
Alors avec Evelyne Delia ce matin, notre petit soleil, qui devient responsable en 2000 du service météo. Mais Evelyne Delia, elle ne fait pas que la météo dans la vie. Il ne te reste pas beaucoup de temps quand même pour faire ta vie de ouais. femme.
Non,
est-ce
vrai.
Que tu es mariée déjà ?
Je suis mariée.
Tu as des enfants ?
J'ai une fille.
Et comment tu as fait pour allier tout ça?
Ben justement, surtout une femme se dit, on culpabilise souvent quand on travaille beaucoup par rapport à un enfant. Et bon, maintenant,
l'enfant, c'est facile, il peut dire, je peux faire des bêtises, maman n'est pas là, je suis sûr qu'elle est en direct.
Ouais. Mais j'étais quand même très présente.
Ouais, mais il y a aussi le fait de grandir avec sa maman qui est en permanence à la télé.
Ouais.
Ça l'a bousculé, ça ou pas, ou ça n'a eu aucun effet?
Toute petite, je pense qu'elle en a joué dans la cour de récré. Elle me disait, bon, ça me permettait de rouler un peu les mécaniques. Et puis après, il y a eu l'adolescence où c'était surtout, tu viens pas me chercher à la sortie de l'école. Et puis après, bah, ça s'est passé comme ça.
Elle fait quoi, cette
fille ? Elle est avocate.
Est-ce que tu as anticipé le moment où tu serais obligée de revenir devant la télé ? Enfin, en dehors de
parce que c'est quand même... J'y suis devant tous les soirs, notamment pour regarder ce que tout le monde fait en météo sur les autres chaînes.
Je comprends très bien. Parce que c'est quand même, on peut le dire comme on veut, c'est quand même une addiction, ce fait d'être tous les jours.
Et tu as raison de dire que c'est un peu une drogue.
Oui, c'est une drogue.
Parce qu'on adore ça.
Tu l'as anticipé, tu arrives...
Je pense qu'on y pense tous. Je crois que je dois dire que je pense avoir les pieds sur terre, c'est-à-dire me dire, et je me suis toujours dit tout le long de ma carrière, que rien n'est acquis et que tout peut s'arrêter
ça, c'est sûr.
Du jour au lendemain.
On le sait tous.
Se remettre en question en permanence.
Tu as des regrets, tu as des choses que ce métier t'a empêché de faire ?
Peut-être. En fait, moi, mon idée, ça a toujours été, j'adore le journalisme, et c'était d'être journaliste. Mais quand j'ai démarré, en fait, les femmes, le journalisme, à part bon, une Denise Glaser, mais c'était autre chose, parce que c'était... Les femmes
parce
n'étaient
que tu
pas...
pourrais très bien être présentatrice du journal de 20h.
Mais, oui, mais ça, je pense que j'aurais effectivement pu l'être, mais je crois que je suis arrivée trop tôt dans ce métier, parce qu'à l'époque... les femmes ne présentaient. Et ça a commencé avec qui ? Avec Christine Ockrent. C'était les années 80. Donc à partir du moment où on a déjà un passé dans ce métier qui est autre chose, mais peut-être mon regret, c'est de ne pas avoir peut-être présenté...
On se posera la question quand même un jour de savoir si, quel est le plus évident, une présentatrice météo qui peut faire le journal ou une femme du journal qui peut faire la météo. Je ne suis pas certain que ce soit une évidence.
Oui, mais voilà, c'est peut-être le seul regret que
mais
j'ai
c'est pas fini.
Eu. Mais ce n'est pas terminé.
On va écouter Jean-Pierre Pernaut.
On va écouter Jean-Pierre Pernaut. Effectivement, Evelyne, le journal de 20h, c'est depuis décembre 2008, bientôt 2 ans.
Pernaut, et Jean-Pierre Pernaut qui vendait des apéritifs. Et puis qui,
en 2000, Jean-Pierre Pernaut qui présente quand même le journal de 13h. Tu sais depuis combien de temps, Patrick ?
Ça doit commencer à faire.
Là encore, un bail, une paille. Depuis le 22 février 1988, donc déjà...
Putain, mais tous ces mecs qui sont à la télé depuis 88, il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils rentrent à la maison, ça va, c'est toujours les mêmes.
On va le retrouver Jean-Pierre Pernaut, puisqu'effectivement, Evelyne le disait tout à l'heure, en 2000, vous aviez co-présenté le Millennium sur TF1. Alors, il était invité de Florence Belkacem sur RTL. Et dans l'extrait que nous avons choisi, il va être question de la liberté journalistique du présentateur vis-à-vis de son journal. Justement, où commence cette liberté ? La réponse de Jean-Pierre Pernaut sur RTL.
Où commence la liberté journalistique ? J'en sais rien. On est à TF1, nous avons une particularité qui est un avantage considérable. C'est qu'on travaille vraiment en toute indépendance de qui que ce soit. Je fais dans ce journal de 13 heures ce que je veux. Je suis le patron du journal de 13 heures. Patrick Poivre d'Arvor est le patron du journal de 20 heures. Et notre travail est coordonné par la direction de l'information. C'est la seule chaîne où les présentateurs sont les maîtres de leur journal. Ma liberté s'arrêtera le jour où le journal que je fais ne sera pas un journal de qualité.
Voilà.
C'est mais, un commentaire ?
Non, moi, je n'ai pas de commentaire.
Bon, ce n'est pas pour dire parce que c'est la chaîne. Mais moi, je vois Jean-Pierre travailler tous les jours et je peux dire que c'est son journal et que c'est lui qui décide aussi, certes avec son équipe, mais de ce qu'il met dedans. Et c'est vrai que de temps en temps, on dit...
Et c'est vrai qu'il a apporté par rapport à Yves, que j'aimais beaucoup, il a apporté un peu moins de parisianisme. Il a
oui,
beaucoup plus de province,
c'était un pari pour lui. Mais ça correspond tout à fait aux téléspectateurs, les régions à l'honneur. Les gens adorent, et c'est vrai.
Ah bah, de toute façon, ça marche depuis 20 ans, c'est pas par hasard. Hein.
Toi aussi, Patrick.
Petit extrait de film de 2000, justement.
Oui, de 2000.
Et c'est une fille qui va essayer de convaincre un garçon.
Il y a
de garçons qui font de la danse.
Ah ouais, tu crois? Et c'est qui ces garçons qui font de la danse?
Oh, personne dans le coin, mais il y a beaucoup d'hommes qui en font.
Des tapettes.
Oh non, pas obligatoirement des tapettes.
Billy Elliot. Mais oui, Billy Elliot, absolument. Ah, oui.
C'est magnifique, ouais. Billy Elliot.
Plus de 2 500 000 entrées avec Jamie Bell.
Il me regarde avec une tête comme si j'ai trouvé Billy Elliot. La dernière image du film est une splendeur.
Il est magnifique, ce film.
C'est une splendeur.
C'était 2000. Là aussi, on se dit déjà.
Déjà, c'était 2000. Générique TV, c'était en l'an 2000.
Une émission qui a marqué les années 2000, diffusée sur TF1. Je choisis pour avoir vos réactions. Écoutez.
Votre amour, il est tellement sincère et... tellement fort que...
Voilà, c'est une émission de télé-réalité.
Oui, une émission qui est revenue sur Virgin 17 récemment.
Perdu de vue, au truc.
Non,
des
couples.
Qui est revenue sur...
Sur Virgin 17, c'est présenté par...
Ah oui, L'île de la Tentation.
Par Laurent Fontaine, absolument. Ah, ouais. C'était L'île de la Tentation.
Alors, donc, tu vas partir bientôt sur L'île de la Tentation pour tenter
l'expérience.
Non, il n'y en a plus
sur TF1.
Ça s'est arrêté sur TF1.
Juste avant d'écouter un petit extrait des Grosses Têtes, on va signaler quand même que tu as écrit des choses. Tu as écrit des choses, dont une chose qui s'appelle « C'est bon pour la planète ». Ça veut dire que tu t'impliques énormément dans l'avenir de la planète. En étant proche de la météo, tu es concerné.
Les problèmes de réchauffement climatique, c'est du climat.
Alors,
mais...
Je vais me faire l'avocat du diable. On est en réchauffement climatique. Pourquoi on se gèle les couilles depuis 6 mois?
Mais ça n'a rien à voir.
Mais
c'est sûr, ça n'a rien à voir.
Là,
c'est
aussi froid.
Un phénomène météorologique. Mais c'est vrai. Mais c'est difficile de faire comprendre aux gens qu'on est dans un changement climatique et un réchauffement climatique alors qu'on a eu un hiver particulièrement froid. Mais là, n'empêche pas.
Honnêtement, est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce que tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur ce phénomène.
Alors,
s'il y avait une unanimité là-dessus, mais tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Il y en a qui estiment aussi que ça fait partie de l'équilibre
du climat.
On a eu déjà des hivers comme ça, on a eu déjà des étés chauds.
Tout à fait. Mais quand on voit quand même les relevés, les courbes des scientifiques sur les 100 dernières années, il y a quand même un problème depuis 1980 où ça s'accélère, mais vraiment une courbe ascendante, mais impressionnante. Et pour les gaz à effet de serre, c'est la même chose. Donc, il y a tout de même quand même un problème qui est évident.
Il va falloir se battre contre toutes les grandes industrielles du monde. Et on sait très bien que ces mecs-là ne pensent qu'à leur gueule et que c'est perdu d'avance.
À part une
révolution, je vois pas, à part une prise de conscience de tous les chefs d'État, ce qu'ils ont essayé de faire, mais qu'ils sont incapables de faire.
Il y a des lobbies importants.
Parce que c'est les lobbies qui gouvernent.
Mais l'union fait la force. Donc si chacun d'entre nous, on s'y met un petit peu, on arrive à faire quelque chose. Mais c'est ça la difficulté.
Oui,
il y a beaucoup de sceptiques. Mais
c'est vrai, mais en même temps, là, c'est comme la crise qu'il y a eu récemment où les gens vont leur demander plein de sacrifices, mais ce n'est pas eux les responsables.
Oui, mais alors là ce n'est pas des sacrifices parce que, à la limite.
Enfin, c'est des sacrifices pour casser nos habitudes.
On fait tous
des efforts.
Pour nous, mais pas pour les jeunes générations.
Mais si tous nos petits efforts sont annulés par des industriels qui n'en ont rien à foutre et qui balancent.
Non, mais c'est vrai que c'est
démotivant. C'est vrai que c'est décourageant, c'est démotivant.
C'est décourageant et c'est démotivant. Mais si nous, par nos petits efforts, les industriels. Tu sais, Patrick, quand on a vu maintenant les publicités pour les voitures, avant c'était je vends la voiture la plus belle, la plus grosse, celle qui va le plus vite. Maintenant, on est vraiment dans un autre système. C'est la voiture qui consomme le moins. Donc finalement, ils ont compris qu'il y avait aussi quelque chose à faire.
On n'a qu'à brider toutes les bagnoles à 130, puisqu'en France, on n'a pas le droit de rouler à plus de 130.
Oui.
Ça fait des années qu'on demande ça. Moi, ça m'emmerde parce que des fois, je roule beaucoup plus vite. Mais ça serait quand même logique dans un pays où on ne peut pas rouler à plus de 130 d'arrêter les voitures à 130. Par contre, il y en a qui vont me dire aussi que le fait de rouler moins vite fait que les voitures restent polluent plus longtemps.
Il y a les deux théories qui s'affrontent. Mais à partir du moment, plus tu roules vite et plus tu consommes aussi. Donc plus tu consommes, plus tu pollues. Donc
En tout cas, il faut se battre pour ça.
Il vaut mieux se battre, je crois. Et surtout pour les générations à venir. Et je pense qu'on est à un tournant. Et que finalement, c'est consommer mieux pour vivre mieux. C'est continuer justement à
tout
consommer.
À fait.
Absolument.
Tout à fait.
On va retrouver
les Grosses Têtes.
Oui, Evelyne dans les Grosses Têtes. On a fouillé dans les archives RTL. Et oui, Evelyne Deliel y a participé en 2002.
Oui, je me souviens très bien.
À l'époque, vous étiez entouré, entre autres, de notre bien-aimé Seigneur Météo, forcément, Carlos, mais aussi des redoutables Philippe Chevalier et Bernard Mabi. Et dans l'extrait que nous avons choisi, Evelyne, vous allez nous parler des bulletins météo, car les sociétaires souhaitaient savoir si vous étiez en direct ou si c'était enregistré. Votre réponse, tout de suite, sur RTL.
Les émissions ne sont jamais enregistrées, bien sûr, c'est en direct.
Le midi, c'est en direct.
Non, mais par exemple, quand il y a un flash météo à 3h du matin.
Ah non, là, il est enregistré l'après-midi, voilà. Tout de même.
Bah non, mais une heure, non, mais ça peut changer entre 1h du matin et midi, c'est ça que je veux savoir.
3h du matin, ça mouille dans le barin. Hein.
surtout à Mésidon.
Dans l'Oigne.
Il y a parfois des inondations dans l'Aisne.
Mais c'est bien, c'est un beau sujet de plaisanterie. Tout alors, avant d'écouter Hardy et Dutronc, on avait parlé, on va être un petit peu plus coquin aussi, je te disais que j'ai beaucoup de copains qui sont en tôle et qui fantasment énormément sur toi.
T'as beaucoup de copains qui sont en tôle.
J'en ai quelques-uns, oui. Ouais, des mecs qui ont mérité d'y être, c'est bien fait pour eux, qui font leur peine et puis qui en sortiront un jour. Mais, et qui fantasment sur toi. Et tu m'as dit, je reçois du courrier, pas mal.
Bon, je reçois du courrier, c'est vrai, de gens qui sont en prison et qui me demande une dédicace, mais c'est toujours du courrier très
très correct, très light, très correct. Ah oui, mais tu représentes un idéal de femme, parce que je lui expliquais qu'en plus, comme expliquaient les mecs, c'est que les présentatrices de journal comme Claire Chazal, etc., elles sont pas debout.
Elle ne bouge pas,
elle est debout, mais Christine aussi l'aborde. Il y a une espèce de lien affectif qui est réel.
Et puis c'est pareil, on est là tous les jours.
Et puis est-ce que ça arrive encore que des gens t'engueulent dans la rue parce qu'il fait mauvais?
Oui, mais là, c'est le clin d'œil. C'est vraiment de dire, on en a marre de ce temps, est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose? Mais non seulement dans la rue, mais de temps en temps dans les couloirs de TF1 aussi.
Voilà, on va saluer aussi au passage tous ces gens qui travaillent derrière, parce que c'est un énorme boulot avec la météo, avec Météo France.
C'est vraiment un travail d'équipe avec Météo France, mais aussi à TF1, parce que c'est vrai que c'est nous, présentateurs, que l'on voit à l'antenne, mais derrière, il y a tout un travail d'équipe, et notamment ce qu'on appelle les arts graphiques, c'est-à-dire les graphistes qui fabriquent les cartes, parce que si elles sont aussi belles, les cartes de TF1,
je les aime bien en plus,
elles sont très lisibles,
et
c'est qu'il y a vraiment du travail et des gens derrière.
J'aime beaucoup le look en plus de la météo de TF1.
On va marquer une pause, et juste après, on va partir en voyage avec Françoise Hardy et Jacques Dutronc.
Et après, on partira en voyage avec elle.
Ben d'accord.
RTL. Vos plus belles années. Avec Evelyne Delia.
Il la remercie de l'avoir accompagnée d'ailleurs.
Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi?
Non, mais je ne moque pas de vous. Regardez. Ces journaux, ces cigares.
Ah, je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois?
Oui, mais enfin, c'est pas très loin. Et puis, il part que 15 jours.
Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures? Puisque vous partez en voyage.
Puisque nous nous quittons ce soir. Mon cœur fait son apprentissage.
Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant, côté du couloir.
Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre.
Je resterai seule sur le quai. Et vous me verrez dans la gare.
Me dire adieu là-bas avec votre bouquet.
Promettez-moi d'être bien sage. De penser à moi tous les jours.
Et retourner dans notre cœur.
Voilà, vous avez une place tout à fait tranquille, sans voisine, sans vis-à-vis, personne pour vous déranger.
J'espère que c'est le fumeur.
Oh, décidément, vous êtes incorrigible. Et moi qui pensais qu'un peu d'isolement vous aiderait à vous détendre. Puisque vous partez en voyage.
Vous m'avez promis. Tous les matins ou davantage, pour que je voie votre visage.
Baissez la vitre, je vous prie.
sais pourtant bien
que je dois rester, mais je jure que s'il crie encore une fois, moi je viens.
J'ai mon amour pour son bagage et tout le reste, on s'en fout.
Jacques Dutronc, puisque vous partez en voyage, on salue d'ailleurs toutes celles et ceux qui partent en vacances. Hein,
et on va te poser la dimanche question 4 juillet. Que plein de filles se posent. La garde-robe pour présenter la météo, est-ce que tu la gardes? Est-ce que c'est à toi ou est-ce
non,
que tu
non,
la...
non, non. Eh ouais. Non, non, bien sûr. On travaille avec. Oui, tous les jours. Mais ça, alors souvent on me dit oh là, qu'est-ce que tu as de la chance.
C'est
mais
toi qui choisis
Oui, c'est moi qui choisis.
Tu as une conseillère, tu vas avoir une costumière.
Non, qui... c'est-à-dire avec les services de presse et avec les maisons de couture. Donc je choisis. Et c'est pas toujours évident parce qu'il y a des choses qui sont superbes comme ça quand on les voit dans la vie et qui passent pas forcément bien à l'antenne.
Alors,
et vice versa.
Si tu as eu, elle est très idiote la question, mais si tu as eu une tenue préférée dans toutes ces années, c'est quoi? C'est le pantalon, c'est la jupe, c'est la robe?
Moi, c'est ce qu'on appelle la robe trois trous en couture, c'est-à-dire ce sont les petites robes à la Kennedy avec toutes simples, mais on est tellement bien, les petites robes fourreaux sans manches. C'est le côté classique, mais toujours avec un petit plus par rapport à la couleur.
Donc, femme et élégante.
Oui. Voilà, le côté très féminin.
Ouais.
Okay. Et ça nous va bien à nous. Hein.
Voilà.
Quel plaisir de retrouver Evelyne. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui sur RTL, Evelyne Delia.
Merci,
ma belle.
Merci, Patrick. C'est très agréable d'être avec vous.
Merci beaucoup. Passez un bon dimanche à l'écoute de nos programmes sur RTL. Place maintenant à l'information. Il est 12h30.